Je vous invite à une lecture de l'Évangile selon Saint Jean, ou selon Jean, si vous préférez, au chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il confessa sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ ». Et lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne suis pas ». « Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ?» « Qui dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Et nous continuerons au verset 28. « Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. » Le lendemain, verset 29, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, et moi, je ne le connaissais pas. Mais, afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui, et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Et voici le texte auquel nous ferons référence tout à l'heure. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui se traduit, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Le lendemain, Jean était encore là, sur les rives du Jourdain, avec deux de ses disciples, au verset 35. Sommes au printemps, comme aujourd'hui. Quelques jours avant la fête de la Pâque, et dans les plaines du Jourdain, pas chez nous, mais là-bas, les blés, les orges blondissent déjà. Fait chaud le jour, mais les nuits sont fraîches. En mars, dit un proverbe juif, le bœuf grelotte le matin, mais à midi, il cherche l'ombre du figuier. Alors, sur les rives du Jourdain, Jean le Baptiste prêche. Il baptise aussi là où l'eau est assez profonde, ce qui indique bien une forme du baptême. Jésus l'a rejoint pour quelques heures. Et la brève visite de Jésus laisse un tel souvenir dans la mémoire de Jean, l'évangéliste, que celui-ci veut consigner par écrit ce moment bouleversant où, pour la première fois, il rencontre, il identifie Jésus. Il est avec André auprès de leur maître, Jean le Baptiste, lorsqu'une silhouette se détache dans le lointain et Jean l'identifie, Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jean se souvient même de l'heure. La dixième heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. Sur la crête des monts de Judée, le soleil est déjà en fin de course. Voici l'agneau de Dieu, annoncé par Ésaïe le prophète. C'est bien lui, assure Jean le Baptiste. Et aussitôt, laissant planter là leur maître. Les voilà André et son ami Jean, les voilà qui emboîtent le pas à Jésus sans l'ombre d'une hésitation. Jésus se retourne et se voyant suivi par les deux hommes, leur demande tout simplement « Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ?» Et eux de répondre un peu embarrassés, un peu gênés, une de ces phrases spontanées, maladroites peut-être, sans doute, mais dans lesquelles passent souvent les sentiments les plus profonds. « Rabbi, maître, où demeures-tu ? Où demeures-tu ? Venez, leur répond Jésus, et voyez, vous venez et vous verrez. » Le texte ajoute qu'ils allèrent avec lui, virent où il demeurait et restèrent avec lui cette soirée-là, conquis par leur nouveau maître. Ainsi se manifeste déjà cette puissance mystérieuse, ce pouvoir de Jésus de transformer d'un regard, d'une parole, d'un contact, la vie de ceux qu'il veut gagner à Christ, qui veut gagner à lui. Jean, André, Nathanaël, un peu plus tard, Philippe, Simon, Marie-Madeleine, la Samaritaine, les 12, les 70, des milliers, des millions, jusqu'à ce jour, vous et moi, irrésistiblement attirés par Christ, se passant le relais comme on se passe le flambeau de la flamme olympique de siècle en siècle. Quatre idées rapidement développées. Que cherchez-vous ? Où demeures-tu ? Venez et voyez. Ils restèrent avec lui. Ce sont les temps forts que nous allons maintenant voir ensemble. Que cherchez-vous ? Aux questions banal d'apparence. Vous savez, c'est ce qu'on prononce quand quelqu'un vient inopportunément. On ne s'y attendait pas. Il vient à votre rencontre, il vient à votre porte. Que faites-vous là ? Que cherchez-vous ? Sauf que dans la bouche de Jésus, ces mots prennent un tout autre sens. Cette question est la première parole rapportée par Jean dans son évangile. Comme si c'était la question prioritaire, celle qu'il y a lieu de poser avant toutes les autres et à laquelle l'Évangile tout entier va donner une réponse. Que cherchez-vous ? Que cherchons-nous dans la vie ? La réussite ? La fortune ? Confort ? Une solide réputation ? Ça me rappelle une phrase d'un commentaire sportif. Il parlait d'un champion de course automobile très discret. Et le présentateur avait ces mots très justes. Les meilleurs ne sont pas ceux dont on parle le plus. Cherchez-vous avant tout le bonheur dont il a été question il n'y a pas longtemps ici. Et si vous avez la curiosité de voir le site d'Agapé, www, à toi de voir, il y a un article qui a pour titre « Bonheur, bien-être, trouver enfin la recette ». Alors il se prolonge en donnant un certain nombre de pistes pour trouver le bonheur. Mais où se trouve le bonheur ? Est-ce qu'avec Dieu, il pose la question, on a une chance de l'atteindre ? Le bonheur est sans doute l'élément le plus convoité sur terre, certainement. L'Ecclésiaste, déjà, constatait cela, le sage, chapitre 6 et verset 6. Ce n'est pas la peine de vivre, serait-ce jusqu'à 2 fois 1000 ans, si l'on ne connaît pas le bonheur. Pas la peine de vivre, disait l'Ecclésiaste il y a 2000 ans, si on ne connaît pas le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour nous? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le cherchez-vous en Dieu? Et alors, l'apôtre Paul, reprenant une parole d'Élihu, lorsqu'il parle à Job au chapitre 35, au verset 10, vous trouverez cette parole: « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ». Et je vais vous citer une histoire racontée, et vous m'en excuserez pour ceux que ça peut un petit peu troubler, mais non, moi ça ne m'a pas troublé. C'est une histoire racontée par Monseigneur au Petit sur les rangs de Radio Notre-Dame il n'y a pas très longtemps. Brahma, un des principaux dieux du panthéon hindou, constata que les hommes se détournaient de Dieu. Et face à cette indifférence, il décida de le cacher définitivement afin que nul homme ne le trouve plus. Alors il convoqua les anciens, le conseil des dieux secondaires, pour recueillir leurs avis. Alors le premier suggère que l'on mette Dieu profondément en terre. Oh, Brahma de dire, mais non, ils le trouveront avec leurs instruments de forage, ils vont le déterrer. Ah ben, qu'on le mette au ciel, au-delà des étoiles, mais non, ils le trouveront avec leur navette spatiale. Alors qu'on le mette au fond de la mer, mais non, ils le trouveront avec leur bathyscaphe. Le plus ancien des conseillers eut alors l'idée qui fut retenue, qu'on cache Dieu au fond du cœur de l'homme, là, ils ne le chercheront jamais. Nul ne cherche Dieu. La préoccupation de ce que l'on recherche vraiment devrait être pour nous de tous les instants. Alors, en venant ici ce matin, qu'êtes-vous venu chercher? Rien, peut-être. Ça m'étonnerait si vous avez fait le déplacement. C'est possible, mais ce serait étonnant. Vous êtes venu entendre, recevoir une parole, un contact, un sourire, une oreille attentive, ou plus que cela d'ailleurs, un peu de réconfort, un peu de vérité, d'espérance, un ami, Dieu, après tout. Et au-delà de ce matin, que cherchons-nous dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait marcher? Quelles sont nos vraies motivations? Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ?» Comme s'ils ne savaient pas, lui, ce qu'ils cherchaient. Il leur pose la question pour donner à André et à Jean l'occasion d'exprimer leur attente. Son regard s'est posé sur eux. Et comme l'écrit la psychanalyste Françoise Dolto, comme un musicien détecte le virtuose potentiel à la façon avec laquelle il touche son instrument de musique, ainsi Jésus aperçut chez ces hommes une musique que les autres n'avaient pas entendue. Il a découvert en eux le soupir, le désir profond d'une autre vie, que celle de disciple de Jean-Baptiste. Il est surprenant que ces hommes emboîtent immédiatement le pas à Jésus. Nous sommes en général moins empressés à prendre ce risque, parce que suivre Jésus, comme ils le font, ce n'est pas dire une parole du bout des lèvres. Ce n'est pas seulement confesser sa foi en passant même par les eaux du baptême, comme le fit Pierre dimanche dernier, très important, mais suivre Christ, c'est toute la vie qui est engagée, bousculée, avec des valeurs qui deviennent dernières alors qu'elles étaient premières. Nous avons chanté tout à l'heure. Et d'autres qui prennent leur place prioritaire, pour les petites choses, mais aussi pour les grandes orientations. Que cherchez-vous d'abord? Voilà La réponse bateau, excusez l'expression, la réponse est évidente, nous la répétons en cœur à l'adresse des autres surtout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ce royaume ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ce royaume ? Et reprenant une parole de Jésus, celui-ci compare ce royaume à un trésor ou à une perle de grand prix. Un homme a trouvé un trésor enfoui dans un champ. Dans sa joie, il va vendre tous ses biens pour acheter le champ et entrer ainsi en possession du trésor. Dans sa joie, cette joie devient le ressort de sa vie. Alors cette joie est-elle encore la nôtre après 10, 20, 50 ou plus d'années de vie chrétienne? La joie du salut, la joie de connaître Christ est-elle encore première dans notre cœur? Comme celle de ce marchand. Même illustration qui repère une perle de grande valeur et qui dès lors renonce à tout ce qu'il possède pour l'acquérir. La précieuse perle est devenue pour lui l'unique nécessaire. Ce qui fait irruption dans sa vie, c'est un bien incomparable qui remet tout en question, toutes les autres valeurs. Plus rien n'a de prix équivalent à celui de sa perle. Alors, il y a beaucoup de très belles perles dans le monde, mais il en est une inestimable dont l'éclat surpasse celui des autres. Mais nous ne savons pas la voir, nous ne savons pas la discerner. Aveuglés que nous sommes par les pierres factices que nous montrent à longueur de journée, de soirée, les médias. C'est pourquoi écrit Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18, « Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les réalités visibles ne demeurent pas. Elles ne demeurent qu'un temps, alors que les invisibles sont éternelles. » Alors, il est vrai que posséder la perle n'empêche pas la coexistence avec la joie de la souffrance. Alors, faut-il rappeler que pour qu'une perle se forme, un grain de sable doit pénétrer à l'intérieur de l'huître perlière. Ce grain de sable constitue le noyau autour duquel des dépôts de nacre sécrétés par l'huître s'enroulent en couches successives pour former la perle. Ainsi, le royaume de Dieu entre dans nos vies par une sorte d'effraction douloureuse, la repentance, comme une nouvelle naissance, et ensuite la perle se nourrit de notre moi égoïste, qu'elle transforme en don de soi. C'est ainsi qu'elle s'épanouit, c'est ainsi que son éclat va grandissant, et du soin que nous prenons d'elle dépend sa beauté. Alors il y a une expression fabuleuse de l'apôtre Paul, « Dans ce monde, vous brillez comme des étoiles dans le ciel. » Vous brillez comme des étoiles dans le ciel. Vous êtes désigné par cette expression comme des étoiles dans le ciel, alors que il nous semble que ressemblons beaucoup plus à un lumignon qui fume. Mais même si c'est le cas, Dieu ne désespère pas de le raviver. Au contraire, il ne se lasse pas. Ce qui rend la vie espérante, c'est que la perle se laisse encore trouver par ceux qui ne la possèdent pas et qu'elle ne demande, une fois dans leur vie, qu'à s'épanouir. Que cherchons-nous ? Prenons le temps, aujourd'hui, le courage de lui reposer la question pour lui donner la seule réponse qui pourrait tout changer. Que cherchez-vous ? Alors les deux disciples répondent par une autre question. Maître, où demeures-tu ? Où demeures-tu ? Où habites-tu ? André et Jean sont comme des SDF, sans domicile fixe. Ils ont une vie d'errance, effectivement, mais ils cherchent un point d'ancrage pour leur vie. Ils cherchent quelque chose et ils vont trouver quelqu'un. Et ce n'est pas tant la curiosité de savoir où et comment habite Jésus qui les pousse, mais de le connaître mieux. Le connaître. Où demeures-tu ? Jésus de répondre, venez et voyez, ne restez pas au loin. Ne restez pas au loin. On ne peut connaître Jésus en gardant ses distances. Il ne sera jamais ce qu'il veut être vraiment. Il sera peut-être un grand homme, comme pour beaucoup. Un modèle, un prophète, le plus illustre des guérisseurs. Mais il ne sera pas le sauveur, il ne sera pas l'ami, il ne sera pas le Seigneur si nous gardons nos distances. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Venez. Quitte d'ailleurs à revenir sur vos pas, vos faux pas. Quitte à vous retourner, c'est le sens du mot conversion. Venez, et sa parole nous invite, bienveillante mais ferme, elle nous invite à un acte d'obéissance, une parole d'autorité qui inspire confiance. Venez, voyez, venez, vous verrez à condition de venir, sinon vous ne verrez rien. Venez, un appel que Jésus renouvelle, où que nous en soyons de nos relations avec Dieu, en amitié ou en rupture, en paix ou en révolte, dans l'indifférence ou dans la foi, le cœur ouvert ou le cœur fermé. Venez. Et vous verrez. Et la suite, ils adhèrent et ils virent. Et c'est à ce moment-là que toute leur vie bascule. Maintenant, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent à leur tour, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils le reconnaissent comme leur Messie. Celui qu'ils attendaient, celui qu'ils espéraient. L'espoir se change en vue pour eux. L'attente en présence. Mais aujourd'hui, où peut-on le voir ? Celui qui a quitté ce monde il y a 2000 ans, nous l'avions répété jeudi dernier, « Venez, vous verrez », puisse-t-il, ces chrétiens chercheurs de Dieu, le voir non seulement dans les Écritures, mais aussi dans des vies qui montrent Christ, seul chemin, seule vérité, seule vie, ce n'est pas être sectaire. Ou intolérant, que d'affirmer cela, c'est parler en témoin de Christ, étant assuré, faut-il le rappeler, c'est important quand même, que convaincre reste l'œuvre du Saint-Esprit, pas la nôtre. Et Jean de conclure son récit, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce soir-là, captivés. Sous le charme, ils sont bien. La présence de Jésus, on imagine qu'il l'écoute avec attention, avec ferveur, moment inoubliable pour Jean, qui marqueront son existence seul avec Jésus pour faire connaissance, meilleure connaissance, comme l'a écrit quelqu'un, à l'écart des autres, loin du bruit. Pour nouer des relations privilégiées avec lui. Il y repensera plus tard, d'ailleurs, à ces instants heureux. il y pensera à l'heure où rester avec Jésus sera aussi accepté, son opprobre, et partager dans une certaine mesure ses souffrances. Jean est l'un des seuls disciples dont on mentionne la présence au pied de la croix. 3 ans plus tard, à la veille de Pâques, Jean comprend maintenant, alors qu'il s'entretient avec Jésus pour la première fois, qu'il ne sera plus jamais seul, qu'il a un ami avec lequel il pourra vivre l'instant présent, faire une pause, non pour se retirer de tout, mais au milieu de tout, rester avec lui. Il sera là en tout temps, comme il l'est avec nous, même si nous ne le savons pas. Même si nous ne le savons plus, même si nous l'avons oublié un moment, il sera là. Rester avec Jésus, ne plus s'agiter, cultiver la fidélité, pas tantôt avec lui, tantôt séparés, selon nos humeurs. Rester avec lui, dans sa parole, dans le recueillement, ici, dans la prière, en communion avec lui, des instants d'éternité qui donnent enfin un vrai sens à la vie. Vous vous souvenez sans doute, parce qu'elle est connue, l'histoire de cet homme d'esprit, il en existe encore, auquel on demanda au cours d'un déjeuner-débat comment il définirait d'un mot la vie. Pas facile comme question. Il ne dit pas un mot. Mais il fit circuler autour de la table une feuille sur laquelle figurait simplement un point d'interrogation et un point d'exclamation. Je pense que vous voyez, je n'ai pas besoin de faire circuler autour de la table. Point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, évidemment, on le somme de s'expliquer, eh bien, il expliqua que ce point d'interrogation, ce point d'exclamation, c'est toute la vie humaine. L'homme commence sa vie par un point d'interrogation optimiste, chargé d'espoir, et se termine sur un point d'exclamation désabusé et lourd de désillusion. C'est son avis. Un triste bilan, mais c'est un constat général. Or, ce n'est pas ainsi que Jésus voit la vie. Celui qui est en moi porte beaucoup de fruits. Mais c'est vrai, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Que cherchez-vous? Il faut conclure. Est-ce aujourd'hui notre point d'interrogation, confiant, où l'espérance reste vivace? Ou bien le point d'exclamation, le constat affligeant? Amère peut-être d'une vie stérile, gaspillée, perdue. Ils restèrent avec lui et pour André, ce ne sera pas un point d'exclamation désabusé qui jaillira de ses lèvres quelques heures plus tard, mais l'exclamation enthousiaste à l'adresse de Simon-Pierre. Nous avons trouvé Jésus le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Nous l'avons trouvé. Voilà la bonne nouvelle, toujours d'actualité. La réponse aux plus ardentes recherches tâtonnantes, fébriles, occasionnelles, persévérantes, c'est la prière, c'est la demande à laquelle Jésus lui-même s'est engagé à donner, hier comme aujourd'hui, une suite jusqu'à la fin des temps. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Car on ouvre la porte à celui qui frappe. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Amen.